France Inter, Alexandra Ben Saïd, Ali Babi, le 7-9.
Mardi 29 octobre, bonjour et bon réveil à tous. Bienvenue sur France Inter, Bernadette Chamonnaz, bonjour.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, l'attaque contre la mosquée de Bayonne. Deux personnes grièvement blessées par balle. Le tireur est en garde à vue pour tentative d'assassinat. Dans le journal, les réactions du gouvernement et des représentants du culte musulman. Les autres titres, Bernadette.
Conflit bloqué à la SNCF, toujours un TGV sur trois sur l'axe atlantique. Le trafic en détail, violence conjugale, première proposition du Grenelle sur le bureau de la ministre. Un message principal, mieux former les professionnels. La Paz en ébullition dans la capitale bolivienne. Partisans et adversaires du président Morales s'affrontent dans les rues. Enfin, plongée dans le monde foisonnement de Tolkien, auteur du Seigneur des Anneaux. Une superbe exposition à la Bibliothèque Nationale.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50 avec vous, Alexandra Ben Saïd.
C'est une députée européenne au cœur du Grenelle des violences conjugales. Aujourd'hui, les propositions et Chrysoula Zakharopoulou a piloté le groupe de travail sur les violences économiques faites aux femmes parce que la privation de ressources est aussi un problème central.
À 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert et sur l'application France Inter.
France Inter.
S'en prendre à un lieu de culte, s'en prendre à une mosquée, s'en prendre à des fidèles, c'est un acte odieux que nous condamnons bien évidemment avec beaucoup de fermeté. Les musulmans de France doivent pouvoir exercer leur culte en toute sécurité et nous devons bien évidemment garantir cette sécurité. C'est ce que je suis venu rappeler, dire que l'État sera bien évidemment toujours à leur côté pour rejeter toutes les haines d'où qu'elles viennent.
Réaction du secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nunez, hier soir sur place à Bayonne après l'attaque contre la mosquée de la ville. L'auteur de cette attaque est en garde à vue pour tentative d'assassinat. Après avoir tenté d'incendier la mosquée, il a grièvement blessé deux personnes. Un acte criminel aboutissement d'une longue dérive islamophobe de cet octogénaire ancien candidat FN, Corinne Audouin.
Il est un peu plus de 15h lorsque Claude S, 84 ans, s'approche de la porte latérale de la mosquée de Bayonne pour tenter d'y mettre le feu. Interrompu par deux fidèles, il leur tire dessus, incendie un véhicule avant de prendre la fuite au volant de sa voiture. Il ne faudra que quelques minutes à la police pour identifier l'homme grâce à sa plaque d'immatriculation, puis pour l'interpeller. Le retraité est en effet rentré chez lui à 15 km de Bayonne. Inconnu de la police et de la justice, Claude S. avait été candidat aux élections départementales sous l'étiquette du FN en 2015. Le mobile islamophobe semble à ce stade le plus probable. En 2014, sur Facebook, Claude S. avait affiché son soutien au polémiste Éric Zemmour dans un texte confus ciblant à la fois les islamistes et les musulmans. Vendredi dernier, l'homme avait écrit au procureur de Dax avec copie au journal Sud-Ouest annonçant son intention de porter plainte contre Emmanuel Macron. Une lettre xénophobe, selon le quotidien, qui a choisi de ne pas en publier le contenu.
Et du côté du Rassemblement National, on réfute tout lien avec l'ancien candidat FN. Cette personne n'est plus dans nos rangs et Marine Le Pen a tenu à réagir très vite hier, parlant d'actes inqualifiables. Mais pour les représentants de la communauté musulmane, il ne faut pas s'étonner qu'on en arrive là. Quelques heures avant cette attaque d'ailleurs, le Conseil français du culte musulman était reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée pour faire passer un message, l'islamophobie, les amalgames, ça suffit. Et c'est un appel à tous les Français que lance ce matin le vice-président du CFCM, Anouar Kipesh.
J'appelle l'ensemble de nos concitoyens de toute confession et de toute conviction à bien faire la part des choses et à faire preuve de discernement. L'islam est à des années-lumière d'actes terroristes qui sont commis et prétendument en son nom. Aujourd'hui, les musulmans de France n'aspirent qu'à vivre pleinement et sereinement leur spiritualité dans le cadre républicain et dans le respect du pacte républicain. Ce sont des citoyens à part entière et comme l'a dit le président de la République, faisons bloc tous ensemble, au-delà des convictions et des confessions des uns et des autres, pour sauver le pacte républicain qui malheureusement est en péril.
Ce contexte dénoncé par les représentants musulmans trouve son actualité aussi aujourd'hui avec cette proposition de loi examinée au Sénat, elle est présentée par le parti Les Républicains. Ils souhaitent que le port de tout signe religieux soit interdit aux personnes qui accompagnent les sorties scolaires.
7h05, la suite du journal Bernadette. Grève à la SNCF, ça ne s'arrange pas.
Eh bien non, les 200 grévistes du technicentre de Châtillon près de Paris continuent leur mouvement. Ils sont chargés de la maintenance des TGV Atlantique et donc même cause, mêmes effets. Emeline Ferry, on fait le point avec vous sur le trafic atlantique aujourd'hui.
Quelques rames qui étaient en maintenance sur un autre site ont pu être récupérées. 34% des TGV circulent aujourd'hui sur le réseau atlantique contre 30% hier. Une poignée de trains en plus pour relier l'ouest du pays. Dans le détail, comptez 8 allers-retours entre Paris et Bordeaux, 6 liaisons entre Nantes et la capitale. Par contre, pas d'amélioration pour les voyageurs qui partent ou arrivent de Rennes, seulement 2 allers-retours dans la journée. Trafic toujours très perturbé aussi sur les lignes vers Poitiers et Quimper avec un seul aller-retour. 2 liaisons dans les deux sens entre Paris et Toulouse, mais certains arrêts ne sont pas desservis. Et puis, aucun train annoncé aujourd'hui vers Brest et Hendaye. De nouvelles perturbations sont à craindre si la grève continue et que les TGV ne peuvent pas sortir du technicentre. La direction espère un retour à la normale d'ici jeudi pour les retours des vacances. Une bonne nouvelle quand même en Provence-Alpes-Côte d'Azur, touchée par un autre mouvement social local. Le trafic des TER est revenu à la normale hier.
Alors, pour se faire rembourser ou pour échanger son billet sans frais, eh bien, la SNCF invite les voyageurs à faire une demande sur son site. Sur le dialogue avec la direction, il n'y en a pas, assurent les grévistes. Ils s'insurgent contre l'idée qu'ils continueraient à ce mouvement uniquement pour le paiement des jours de grève. Certes, le plan de réorganisation du travail a été abandonné pour l'instant et ils continuent de dénoncer des conditions éprouvantes, les 3-8 7 jours sur 7, ou encore des réparations urgentes sur les trains à faire de plus en plus vite. Les grévistes se sont donné rendez-vous aujourd'hui devant le siège de la SNCF. 125 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France en 2019. Stop à l'hécatombe depuis début septembre. Lancement du Grenelle contre les violences conjugales. 11 groupes de professionnels se sont mis au travail. Les premières propositions arrivent sur le bureau de la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Delphine Ebnou, vous avez pu les consulter.
Ces 60 propositions doivent tisser une toile pour ne laisser aucune victime sur le bord de la route. Du monde du travail à la santé, du commissariat à la justice et un accent mis sur l'outre-mer ainsi que le handicap. Avec un mot d'ordre dans chaque groupe de travail qui rejoint le message martelé depuis des années par les associations, il faut former les personnels de santé, de l'éducation nationale, les forces de l'ordre, les entreprises, les agents de Pôle emploi, mieux définir aussi ce que sont les violences économiques, l'emprise psychologique, afin de faciliter les poursuites judiciaires. La secrétaire d'État Marlène Schiappa a déjà retenu quelques idées, un protocole clair d'accueil et d'évaluation du danger en commissariat et gendarmerie, la réquisition des armes à feu dès la première plainte, mais aussi l'évolution du secret médical pour qu'il puisse être partagé si cela peut protéger les victimes, et enfin l'aménagement du temps de travail pour pouvoir effectuer des démarches administratives ou juridiques. Tout cela sera tranché le 25 novembre par le gouvernement avec l'annonce des mesures définitives.
Des propositions qui sont à retrouver sur franceinter.fr. La secrétaire d'État qui souhaite aussi inscrire dans la loi comme circonstance aggravante le suicide forcé, c'est-à-dire le harcèlement qui provoque un suicide. 217 femmes en 2018 se seraient donné la mort après avoir subi des violences conjugales. Près de Cavaillon, dans le Vaucluse, c'est l'hypothèse du double infanticide qui est retenue. Hier soir, les corps de deux enfants de 5 et 7 ans ont été retrouvés. Leur mère à leur côté, elle va être entendue. À Londres, troisième échec d'affilée pour Boris Johnson. La Chambre des communes rejette la tenue de législative anticipée le 12 décembre. Qu'à cela ne tienne, le Premier ministre dépose dans la foulée un projet de loi en vue d'élections anticipées à la date du 12 décembre.
Et puis en Bolivie, la capitale La Paz s'embrase.
Affrontement dans la rue après la réélection du président Morales entre ses opposants qui dénoncent une fraude électorale et ses partisans déterminés à le défendre. Vous allez l'entendre avec ce reportage d'Alice Campagnol par tous les moyens.
C'est avec de la dynamite que plusieurs centaines de mineurs ont exprimé leur soutien à Evo Morales hier à La Paz. Ils sont venus débloquer les rues de la ville, barrées par des citoyens de l'opposition qui se mobilisent contre l'élection d'Evo Morales.
Nous, le peuple, nous sommes en colère parce qu'on a piétiné notre vote et notre opinion. Et franchement, faut être vraiment sans gêne pour croire que nous allons accepter comme ça, sans rien dire.
L'ambiance était tendue, insultes, menaces et parfois même violences entre d'un côté les opposants à Evo Morales et de l'autre ses partisans.
La droite ne veut pas accepter sa défaite. Tout le processus de vote a été transparent. Ils veulent prendre le pouvoir par la force en disant qu'ils sont les plus nombreux. C'est faux, nous sommes la majorité et on va défendre notre vote.
Et Evo Morales lui-même l'a dit, si les blocages continuent, ses partisans encercleront les zones urbaines et empêcheront l'approvisionnement des villes en nourriture. La journée s'est terminée par deux grands rassemblements de plusieurs milliers de personnes, chaque camp cherchant à montrer ses forces. Le MAS, le parti de gouvernement, fêtait sa victoire. Quant à l'opposition, elle a appelé à rester mobilisée. La Paz, Alice Campagnol, France Inter.
En sport, le Masters 1000 de Paris-Bercy, Adrian Manarino assure, il écarte avec autorité Casper Ruud, il s'offre le droit d'affronter au deuxième tour Raphaël Nadal, qualifié également Chardy, Père et Tsonga. Le Seigneur des Anneaux, vous avez peut-être plongé, enfant, adolescent, dans l'univers foisonnant de Tolkien, cet auteur inclassable qui a donné vie à un monde qui fascine. C'est une première en France, une exposition qui lui est consacrée à la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand. Exposition superbe, Jacqueline Pétroz.
Quel fabuleux voyage que celui en terre du milieu. John Romuald Roel Tolkien, l'un des plus jeunes professeurs d'Oxford de son époque, a développé un incroyable imaginaire. En 1937, il écrit pour ses enfants Le Hobbit, succès immédiat. Il construit alors un continent peuplé d'hommes, de hobbits, de nains et d'elfes qui résonnent avec le monde réel. Vincent Ferré est l'un des commissaires de l'exposition.
Il faut vraiment comprendre que le choix du merveilleux par Tolkien et de la fantaisie, c'est un choix mûrement réfléchi, c'est pour lui un moyen de parler de notre monde et des enjeux profonds de notre monde, le souci de la nature, les relations entre les peuples, ce qu'on va faire de la terre qu'on occupe actuellement et qu'on va laisser un jour à nos descendants. Ce sont des questions qu'il aborde à travers des récits dans lesquels le merveilleux est présent comme une sorte de filtre pour mieux obliger les lecteurs à s'interroger sans pour autant que ça soit des livres à thèse.
1000 mètres carrés de dessins, de cartes, de manuscrits, d'alphabets qui dialoguent avec des objets et des recueils médiévaux de toute beauté. On rêve devant quatre magnifiques tapisseries d'Aubusson inspirées de son œuvre et l'on découvre aussi un peu l'homme qu'était Tolkien, érudit bienveillant, dont il y a tant de romans à lire et à relire, y compris Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux qu'on l'entend lire ici.
Incroyable, incroyable d'entendre la voix de Tolkien, c'est tout à fait fascinant. Tolkien, voyage en terre du milieu, c'est à la Bibliothèque nationale de France jusqu'au 16 février 2020.
Merci Bernadette Chamonaz.